Bali, bah, de ce que je connais de Bali, hein, on va dire, c'est un peu. C'est un lieu très zen, enfin, il y a beaucoup de pilates, c'est un peu ça les clichés. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont partis vivre à Bali, moi je suis beaucoup les influenceurs. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils montrent même à travers leur réseau.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Habillé que je vous accueille aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen, mais avec mon maillot de bain en dessous, car juste après l'émission, je file à Bali. Enfin, Cyril m'a dit, allez vieux, ce soir je te paye un massage baliné chez Madame Tenten, avenue de Versailles, tu verras, c'est comme si que t'étais à Bali. Bali, la perle de l'Indonésie, l'île de rêve par excellence, un petit paradis devenu surtout celui des influenceurs qui s'y multiplient, comme les champignons après la pluie ou une soirée chemsex chez Pierre Courade. Pourquoi cette île tropicale fascine-t-elle tant? Le surtourisme est-il en train de changer le visage de Bali? En tout cas, la destination devrait rester tendance encore quelques temps, d'après les échos que j'ai eus du futur. Nous sommes le 26 mars 2027. Manon Mariani, ex-chroniqueuse de l'émission Zoom Zoom Zen, vit désormais dans une villa en bambou, surplombant Padang Padang, la plus belle plage de Bali. Ouais, un an auparavant, elle a eu le déclic en découvrant qu'elle gagnait 30 fois plus de followers en publiant une photo de son nombril qu'en partageant une chronique journalistique qui lui avait pris 2 heures à écrire. Immédiatement, elle s'est dit... Ce qui en marianoche signifie « j'ai une idée ». Elle décide de devenir influenceuse crop top à Bali. « Mais tu ne peux pas, tes amis vont trop te manquer », s'insurge Quentin. « Mes amis oui, mais pas toi », rétorque Manon en faisant ses valises. Quelques mois plus tard, Quentin la rejoindra, en exil forcé en ce qui le concerne. Je ne m'étendrai pas ici sur les raisons qui contraindront Quentin à fuir la France au printemps 2026. J'évoquerai simplement la polémique que ses propos suite à la mort de Loana ont suscité. Il était question d'émotion, mais aussi d'autres trucs en sion. Et ça avait beaucoup choqué, le Standard d'Inter avait explosé, la médiatrice avait fait un burn-out. Et puis, il y avait bien sûr eu ce procès pour imitation prohibée d'accent belge relevant de la glottophobie qui l'attendait fin 2026.
C'est une supercherie informatique, une fois.
Alors, Bali, nouveau départ ou fuite en avant? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Sylvine Piquel-Chevalier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. M'accueillir. Vous êtes professeur de géographie à l'ESTHUA. Peut-être ça se prononce de manière plus fluide.
L'ESTHUA,
tout simplement. C'est l'étude supérieure de tourisme et de l'hôtellerie de l'Université d'Angers. Spécialiste de l'Indonésie en général et de la société balinaise en particulier. Pourquoi autant d'influenceurs semblent trouver refuge à Bali? À quoi correspond cette île indonésienne? Quelle est son histoire, sa particularité? Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter ceux qui, dans un empile, se doreront la pilule à Padang Padang. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Et cette fois-ci, sans accent belge.
Et j'espère bien, oui. Manon...
En même temps, il fera beau. Hein.
En Belgique.
Manon, je sais la question que vous me posez depuis mon lancement. Est-ce que vous vivrez seul dans cette somptueuse villa en bambou, ou bien Benjamin Biolay aura-t-il décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour vous rejoindre à Bali? Écoutez, mes pouvoirs divinatoires ne vont pas jusque-là. Si vous voulez, on l'appellera en fin d'émission pour lui demander. Non. En attendant, dans votre pièce jointe aujourd'hui, Manon.
Dans ma pièce jointe, je reviens sur l'histoire d'un influenceur australien qui a voulu construire un empire à Bali, mais qui s'est fait éjecter de l'île au final. C'est sûrement aussi ce qui attend notre cher Quentin.
Très certainement. Face à vous, Sylvine, justement, surtout ne le brusquons pas. Il est encore sous le choc de la disparition de Loana, qui représentait tant pour lui. Sans tout dévoiler de sa psyché complexe, je peux vous dire que pas mal de trucs en sion l'habitent au lendemain de cette perte tragique. Émotion, stupéfaction et bien d'autres. Quentin, pour vous calmer un petit peu, vous êtes allé faire réagir les passants. Notre mot du jour, Bali.
Enfin, j'étais en CM2 quand Loana était à son prime.
C'est ce que vous nous avez rappelé. C'est ce qui vous nous avez rappelé dans la conversation WhatsApp dont je parle.
Que vous révélez, donc c'est une conversation privée. Vous savez que ça
je
peut
suis
être,
loin, je suis
c'est
loin,
une amende de 45
je
euros.
Suis loin de tout révéler. Ouais, Quentin, faites attention, ne me tentez pas.
Alors, qu'inspire Bali aux personnes arrêtées dans la rue? Le voyage, le rêve. Mais est-ce qu'on gratte un peu aussi la carte postale de l'île paradisiaque qu'on nous a vendue dans 7 à 8? Vos réponses complètement à la rue avant 16h30.
Comment endiguer le surtourisme? Vous verrez dans le Zoom Zoom Test que certaines localités ont trouvé des parades radicales. À Alençon, par exemple, ils ont eu l'idée géniale de ne pas avoir de site touristique du tout. Comme ça, hop, zéro touriste.
C'est pas con.
Il y a
le musée de la dentelle qui est formidable. Non, je vous assure, qui est formidable.
C'est précisément ce que je viens de dire. Après 17h, restez avec nous. On passera en mode Zoom Zoom Back, direction aujourd'hui une année qui peut être riche d'enseignements vu la situation au Moyen-Orient. 1973, année du premier choc pétrolier. On parlera avec Philippe Chalmin, une pointure, puisqu'il était le conseiller matières premières de François Fillon. Calmez-vous Cyril. D'autant que dans un premier temps cet après-midi, on enfile nos tangas direction Bali. Et oui, moi c'est comme ça que je pratique...
Le tanga.
Vous êtes déchaîné.
Mais vous savez ce que c'est un tanga?
Tout à fait, oui, j'en ai quelques-uns à la maison.
Il en a porté une fois.
On n'est jamais partis au soleil ensemble,
non.
Avec Emmanuel Moir, quand même.
Vous avez tant de choses à découvrir.
Oula. Je vous imagine en Christian Clavier dans Les Bronzés, ça me fait peur.
C'est un peu ça.
Il y a autant de poils, mais ils sont blancs.
C'est un peu ça. Voilà. Sylvine Piquel-Chevalier, on l'oublie trop souvent, mais Bali, c'est une île parmi d'autres en Indonésie. Géographiquement, déjà, est-ce que vous pouvez nous la situer pour qu'on se rende compte, on sache à peu près de quoi on parle?
Oui, alors tout à fait. Alors, l'Indonésie, c'est plus de 13 000 îles. Hein. La plus grande, enfin, la plus peuplée étant Java, où il y a la capitale, et Bali, donc, est à l'est de Java. C'est une île qui est un petit peu plus petite que la taille de la Corse.
Ah, ça c'est bien pour visualiser, plus petit que la Corse, mais genre un tout petit peu plus petit que la Corse.
Un tout petit peu plus petit, ouais.
Alors Bali, c'est certainement là qu'il finira, lui aussi. Il se laissera pousser un peu plus la barbe, François Rollin lui apprendra à évoluer pieds nus en toutes circonstances, il perfectionnera sa maîtrise de la flûte et il accomplira son rêve, devenir gourou tantrique à Bali, où il régnera sur une vingtaine de lakarzous, adeptes dociles et fascinés de ce Raël coquin. En attendant, Cyril, racontez-nous, Bali, d'où ça se...
Imaginez une balançoire géante au-dessus d'une jungle luxuriante, un smoothie à la main, la planche de surf pas loin, Julia Roberts dans les parages, car oui, depuis son film Manche Prix M, sorti en 2010, l'actrice est aussi associée à Bali. Ce film a fait de l'île un fantasme absolu pour celles et ceux en quête d'un paradis terrestre, et tant pis si on est en pleine anomalie géopolitique. Je vous explique. L'Indonésie est le plus grand pays musulman au monde, et Bali, une île profondément hindouiste, couverte de milliers de temples. Pour comprendre cette exception culturelle, remontons jusqu'au 15e siècle. À l'époque, l'île voisine Java est dominée par un immense empire hindouiste et bouddhiste, l'empire Majapahit. Mais l'islam s'étend rapidement dans la région et l'empire s'effondre. Du coup, que vont faire les élites de Majapahit? Hop, elles s'enfuient vers l'est, elles traversent un petit détroit et se réfugient sur une petite île, Bali. Bali devient alors une capsule temporelle, un sanctuaire fortifié pour préserver l'hindouisme et l'art javanais face à l'avancée de l'islam.
Alors quand est-ce que ça devient cette image de paradis pour touristes occidentaux?
Eh bien, ça nous vient du colonialisme néerlandais au début du XXe. En 1906, les Néerlandais qui contrôlent l'Indonésie décident de soumettre définitivement les royaumes de Bali. L'armée avance et face à eux, les rois baliens savent qu'ils n'ont absolument aucune chance. Alors, plutôt que de se rendre, ils choisissent le puputan, un suicide rituel de masse. Habillés de blanc, la population marche droit vers les tirs néerlandais, se poignardant eux-mêmes avec des poignards sacrés.
Ah oui, ils font pas les choses à moitié.
Du coup, l'image des Pays-Bas en prend un coup. Alors pour se refaire, le pays invente dans les années 1920 la politique de la balinisation. Une grande campagne de communication pour vous vendre l'idée de préserver la culture balinaise, de restaurer les temples, blablabla, tout ça, vous connaissez. Et c'est comme ça que naît le tourisme à Bali. D'abord un mythe du paradis terrestre qui a ensuite attiré les hippies des années 70, puis les surfeurs et puis Instagram. Et c'est le début de notre histoire.
Merci Cyril. Alors Sylvine, on a vu qu'il y avait pas mal de communication, de marketing autour de Bali, mais est-ce que, pour reprendre les choses... Au début, est-ce que Bali, c'est beau? Est-ce que la nature est vraiment paradisiaque telle qu'on l'a...
Alors, en fait, il faut déjà définir qu'est-ce que paradisiaque, mais effectivement, c'est vraiment une construction d'avoir fait, donc comme vous l'avez très bien dit, bravo, hein, les Hollandais, en fait, vont se servir notamment des artistes hein, pour définir, en fait, alors cette île paradisiaque des années 20, c'est la nature luxuriante, mais c'est aussi les femmes au sein nu hein, qui a fait beaucoup fantasmer, en fait, les Européens, jusqu'à, alors, si je vais plus me permettre, ce qui manque, c'est à partir de 1945, et donc, à partir du moment où en fait on va avoir donc l'indépendance indonésienne. Et là, ce qui va être très intéressant, enfin si je peux continuer, c'est que en fait on a eu, donc c'est vraiment intéressant, il y a une co-construction de la société balinaise avec le tourisme, donc depuis ces années 20. Donc au départ, on a le pouvoir central en fait hollandais, effectivement, vous l'avez très bien dit, c'est exactement ça, pour changer l'image en fait de la colonisation. Et à partir de 1945, avec donc l'émergence, enfin la révolution et donc l'indépendance, en fait, une fois encore, on va, le pouvoir central qui est cette fois indonésien, et donc qui est javanais, hein, puisque vraiment l'Indonésie se construit autour de la centralité javanaise, va utiliser le tourisme à Bali. Alors, comme vous l'avez très bien dit, les javanais considèrent que Bali est un peu le conservatoire de leur culture, puisque c'est l'héritage de l'empire de Majapahit. Et en fait, cette marche balinaise, elle va être au service de la centralité en fait javanaise, puisqu'en fait, ils vont laisser entendre que Bali est l'origine en fait de la civilisation indonésienne, alors qu'en fait c'est l'origine de la civilisation javanaise. Donc dans ce mythe, en fait, alors à partir de 1945, plus de femmes au sein nu, interdit, hein, évidemment. Oui. Donc en fait, là, on va justement éviter, parce qu'il y a eu aussi du tourisme sexuel et des abus, bien entendu. Hein. Donc on va rester sur ce mythe de la nature et de la culture, des rituels et de gens très ouverts, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai de très ouvert. Et c'est pour ça aussi que ça fonctionne le tourisme, et on en reparlera par la suite avec le problème justement des influenceurs et d'un tourisme hors sol, parce que les Balinais ne demandent qu'à partager, en fait.
Une petite pointe peut-être sur l'organisation politique de l'Indonésie, c'est quand même le plus grand pays d'Asie du Sud-Est, premier pays musulman du monde. Est-ce que chaque île est autonome? Est-ce que Bali, par exemple, a un gouvernement? Comment ça fonctionne?
Alors, en fait, effectivement, il y a un pouvoir national, mais en fait, le pays étant immense, elle est aussi organisée avec des pouvoirs régionaux, mais qui sont quand même inféodés au pouvoir national. Hein. Mais effectivement, Bali est une province. Avec des gouverneurs, alors des gouverneurs qui peuvent être aussi des sultans, hein, parce que justement, parce que en fait, comment l'Indonésie tient, mais justement, alors leur slogan c'est l'unité dans la diversité, donc effectivement 80% de population musulmane, mais on a aussi des hindous, on a aussi des chrétiens, et tout ça dans un magnifique syncrétisme avec de l'animisme partout. Même pour Bali, on parle pas de hindou balounais, parce que en fait, il y a aussi le culte des ancêtres qui est très fort, donc voilà, c'est vraiment en fait des religions.
C'est un peu œcuménique, Bali, finalement. Beaucoup de religions se mélangent.
Alors, on a quand même 80% de Balinais qui sont hindous balinais. D'accord. Mais on a quand même des minorités donc chrétiennes et musulmanes et qui sont balinais. Hein. Mmh. Et donc justement, peut-être qu'on en parlera par la suite, parce que le tourisme dans ses aspects positifs permet aussi la valorisation des minorités, notamment des balinais chrétiens dans l'ouest de Bali. Donc voilà, des aspects positifs. Mais alors, en Indonésie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a ce pouvoir national, il y a le pouvoir régional, mais ce qui est le plus important, et là aussi on va arriver à ce qui explique la situation actuelle, c'est le pouvoir coutumier. C'est ça qui régit vraiment, en fait, la vie.
Et il est encore très très fort,
c'est pas que le premier pouvoir. Extrêmement fort pour les Balinais, et ne concerne pas justement les étrangers.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Une heure, les pieds dans l'eau cet après-midi dans Zoom Zoom Zen spécial Bali. La professeure de géographie à l'Université d'Angers, Sylvine Piquel-Chevalier, est avec nous pour comprendre le pouvoir d'attraction de cette île où se retrouvent désormais de nombreux influenceurs. Est-ce qu'on peut dire que Bali, c'est devenu le nouveau Dubaï ?
Alors, moi, cette question m'interpelle parce que je travaille surtout sur la population locale et sur le fait que le tourisme se développe avec les touristes, avec les balinais, pardon. Et évidemment, quand on lit ça, comme vous, hein, je l'ai lu, ça me laisse perplexe parce que, évidemment, ma première question, c'est quel rapport entre la société balinaise et la société de Dubaï. Mmh. Donc, effectivement, je pense que le fait qu'on puisse écrire ça témoigne vraiment d'un tourisme qui est totalement hors sol. Totalement hors sol, où en fait on va chercher des plages, on peut en trouver partout. Effectivement, on peut découper des morceaux de rizière, je ne pense pas qu'il y en ait à Dubaï, pour faire un décor, mais en fait qui n'a aucune considération, qui ne s'intéresse pas du tout.
Vous parlez de décor, c'est-à-dire que les villas dans lesquelles vivent ces influenceurs, pour les citer, c'est pas du tout, ça ne respecte pas du tout l'architecture locale, on n'est pas du
exactement.
Tout dans quelque chose de baliné.
Alors, totalement, et en plus ça pose vraiment un problème parce que l'architecture locale, c'est pas comme en France où on a en fait une nécessité de préserver l'architecture pour des raisons esthétiques ou patrimoniales. C'est au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est une société où la culture et la religion sont intrinsèquement liées. On parlait tout à l'heure du droit coutumier, et en fait l'architecture, elle doit respecter une organisation. Il faut savoir que ce sont des gens qui sont donc extrêmement croyants, et qu'en fait dans cette croyance donc hindou-balinaise, hein, avec le culte des ancêtres qui est très fort, en fait tout ce qui est sacré doit être dirigé vers les montagnes. Donc en fait, ça veut dire que quand on est au sud de Bali, chaque maison doit avoir un temple, en fait, avec le temple des ancêtres, qui est dirigé vers les montagnes. Donc quand on est au sud, il est dirigé vers le nord. Ouais. Quand on est au nord, il est dirigé vers le sud. Donc il y a vraiment une organisation qui est fondamentale, en fait, pour eux. Et là, en fait, la problématique que me disaient encore des collègues malinais, ils me disaient, mais si t'es étranger et t'as de l'argent, en fait, bah, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, en fait, t'es construit n'importe quoi, avec des villas qui ont une piscine à l'intérieur, un toboggan qui tombe dans une piscine. Et en plus, le summum, c'est qu'on parle d'authenticité. Bon, qu'est-ce que veut dire l'authenticité d'une société tout le temps en évolution? Bon, où vous êtes accueillis par des statues de Bouddha, alors que c'est une religion hindoue. Alors, on comprend parce que Bouddha, ça parle à tout le monde, c'est facile de reconnaître Bouddha, alors que Shiva, Brahma, Wishnu, c'est plus difficile. Hein.
Mais comment justement les Balinais cohabitent avec ces touristes? Est-ce qu'ils arrivent déjà à cohabiter ensemble?
Je pense que ce type de tourisme autour des influenceurs ne représente pas tout le tourisme à Bali. Donc, comme je vous disais, la société balinaise s'est co-construite pendant 100 ans avec les touristes. Donc quand il y a un équilibre, les Balinais, ils sont ravis en fait de partager leur culture. En plus, il faut bien se rendre compte que, comme vous l'avez dit au départ, c'est une minorité hindoue dans le plus grand pays musulman du monde. Donc et ils sont aussi la vitrine de l'Indonésie. Donc en fait, cette reconnaissance, cette valorisation par nombre de touristes quand même, hein, il faut le dire, hein, ça leur permet en fait à la fois d'être fiers d'être fiers de leur culture, de donner de l'attrait à leur culture pour les jeunes, parce qu'ils pourraient très bien s'en détourner. Hein. Ça permet aussi l'émancipation des femmes, hein. J'en reparlerai peut-être par la suite. Donc, il y a plein d'aspects positifs.
Donc, ils sont contents, d'une certaine manière.
Ils sont contents. Le tourisme est vital pour eux. Hein. Pendant le Covid, ça a été une catastrophe. Hein. Mmh. À condition de rester au cœur, en fait, de l'offre touristique. Et là, en fait, où ça pose problème... Alors, c'est pas complètement nouveau. Hein. Et puis, si on revient à l'histoire de l'essor touristique de Bali, en fait, qui est dans le cadre de l'ordre nouveau de Sukarno, qui a ouvert, en fait, aux influences occidentales, notamment extérieures, et puis qui a créé, à partir de la fin des années 60, les grandes resorts dans le sud de l'île. Alors, c'est assez intéressant à comprendre, hein, parce que ça, aujourd'hui, ça explique le déséquilibre du développement touristique à Bali. En fait, l'idée, c'était déjà que le tourisme ne contamine pas la civilisation balinaise. Mmh. Là, on a les rapports compliqués entre les sociétés locales et le tourisme d'une façon générale.
Il fallait pas trop se mélanger, quoi.
Voilà, c'était
touristes
cette idée.
Et locaux.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, ils ont décidé de construire, avec notamment une société française, hein, ces grandes, en fait, stations balnéaires dans le sud, en fait, dans la presqu'île de Boutique, qui était moins habitée, avec des plages de sable blanc, donc peu fertiles, ça les intéressait pas trop. Et puis, quand on a eu l'essor, alors surtout la fin des années 80, alors on a eu restructuration totale de Bali, hein, puisque changement de capitale. Hein. Avant, la capitale était au nord, Singaraja. Donc, c'est devenu Denpasar. Construction de l'aéroport international en 1969. Et puis, lorsqu'on a eu la libéralisation des flux en fait, aériens en 1986, là, on va arriver vraiment à l'essor.
C'est là où Bali est devenu tellement touristique. Aujourd'hui, on ne dit pas « je vais en Indonésie », on dit « je vais à Bali ».
Absolument.
C'est devenu une marque.
Absolument. Il y a même des gens qui ne savent pas que Bali
est en Indonésie. Mais pourquoi on ne va pas sur d'autres îles ? Il doit y avoir d'autres îles magnifiques.
Alors, pour plusieurs raisons. Parce que il y a déjà un problème d'accessibilité. Alors là, j'ai un étudiant, un doctorant qui a travaillé là, sur la Papouasie et l'ouest de la Papouasie. Bon, il faut déjà 14 heures pour arriver à Jakarta, et après, il faut encore 10 heures pour arriver, en fait, en Papouasie, en prenant deux bateaux, etc. Donc, l'accessibilité est un énorme frein. Après, là où c'est facile, entre guillemets, d'aller à Bali, c'est qu'ils ont l'habitude, en fait, des touristes. Ils sont ouverts sur le reste du monde. Et donc, du coup, vous allez pouvoir trouver tout type d'offres, tout type de prix, et des gens qui ont l'habitude de voir des ce qui n'est pas forcément le cas.
Et oui. Je vois Quentin qui frétille sur son petit siège. Vrai. Je lui ai promis, je ne m'étendrai pas sur les propos qu'il a tenus en ligne suite au décès de Loana Petrucciani mercredi soir. Mentionnons simplement qu'il avait 9 ans au moment de Love Story et qu'il ne manquait pas une minute de ce programme, ce qui parfois agaçait sa grand-mère.
Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre.
Mais bien malin, celui qui pourra deviner ce qu'il a écrit dans le groupe WhatsApp.
Un bel hommage à ma grand-mère.
Vous pouvez compter sur moi, Quentin, plaisir. Pour ne rien dire. Quentin, l'important, c'est Bali, notre sujet du jour, et votre micro-trottoir.
Ma première rencontre, c'est ce monsieur qui marche les mains dans les poches en sifflotant. Il souffle en me voyant, pensant que je vais lui parler politique avec mon micro France Inter.
Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Alexander.
Vous pensiez que j'allais vous parler des municipales ?
Ouais, exactement, ouais. Non, c'est pas ça ?
On est bien ici, non ?
Ah, j'adore le quartier. J'adore. Ici, on a toujours été à droite. Hein ? Je pense. Là où ça va financièrement, je pense qu'on est plus à droite qu'à gauche.
Bah voilà, c'est assumé, c'est tranquille, on est bien. Il découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Bali ? Vous connaissez ? C'est une marque de chaussures ?
C'est une île.
Ah oui, c'est une île, oui, bien sûr. Je sais pas pourquoi, mais c'est les chaussures qui me sont venues. Bali, vous souvenez de cette marque de chaussures ?
Non.
Non ? Les chaussures qui sont à 190 francs, c'était à l'époque, ou 90 francs. Bon, et alors ? Dites-moi tout.
Bah oui, alors, est-ce que c'est pas le tout de parler de chaussures ? Que lui inspire Bali ?
Bah, la nature, la verdoyance... L'État islamique.
Ouh, c'est venu vite.
Oui.
Ah, bah l'Indonésie étant le pays où l'on compte le plus grand nombre de musulmans au monde, la connexion s'est vite faite dans l'Ouest parisien. Pour être précis, à Bali, on pratique plutôt l'hindouisme balinais, vous nous le disiez. J'arrête Eva maintenant. Veste en cuir sur un top gris et un jean slim. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ?
Je suis étudiante.
En quoi ?
En droit de l'entreprise. Je dois le lire ?
Ouais.
Bali.
Vous êtes déjà allée à Bali ?
Jamais, pas encore.
Pas encore ?
Pas encore.
C'est en projet ?
Ouais, mais pas tout de suite.
Pourquoi ?
Parce que j'ai d'autres pays à faire avant ça.
Oh bah excuse-nous Eva alors. Bon alors c'est quoi Bali pour elle ?
Bali, bah de ce que je connais de Bali, hein, on va dire c'est un peu... Allez, je dirais quelque chose de merveilleux de ce que je vois un peu à travers les réseaux, quelque chose de merveilleux là-bas. Quand on part là-bas, c'est vraiment bien, on oublie un peu tous les soucis.
Il y a un côté carte postale fond d'écran.
C'est ça, non, clairement. C'est très cliché, Bali. C'est vraiment, on va dire, c'est un lieu très zen. Enfin, il y a beaucoup de pilates. Normalement, quand on part là-bas, c'est pour de la relaxation, etc. C'est un peu ça, les clichés. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont partis vivre à Bali. Moi, je suis beaucoup les influenceurs. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est ce qui monte même à travers leurs réseaux.
tout ce qui est zen, pilates, même avec les temples, etc. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup attirée par les plages, les eaux turquoises, ça m'intéresse beaucoup. Hein.
Je salue Eva, ça l'intéresse, les eaux turquoises.
Ouais, c'est intéressant, c'est vrai, de se pencher sur l'eau turquoise.
Ouais. C'est important. Je la salue et je tombe sur cette dame, tout de blanc vêtue. Elle a mis son écharpe pour se protéger des giboulées de cette fin mars.
Bali. Ah non, faut que je vous dise que ça m'inspire. Bah, l'île de Bali, la destination de vacances, ou pas.
Vous y êtes allé ?
Oui.
Ah, vous y êtes allé ?
Oui.
Enfin, quelqu'un qui peut me raconter. Alors, une image qui lui revient de son voyage à Bali.
Une falaise avec tout en bas, une espèce de téléphérique qui vous emmenait sur une plage déserte, turquoise, magnifique. Ah oui. Voilà, c'est la première image que j'ai, mais après, c'est des gens... très gentil, accueillant, chaleureux, plein de sourires.
Ah super, elle a pu découvrir aussi un pays, les habitants, une culture.
Je suis peut-être pas restée assez longtemps, mais un peu. J'aimerais bien y retourner pour justement m'imprégner un peu plus de la civilisation locale. Et voilà, je pense qu'il faut rester un peu plus longtemps que juste aller dans un bel hôtel une semaine.
C'est ce que vous avez fait ?
Oui. On avait été piqué par des bêtes, par des énormes araignées, voilà, c'est tout.
Ah ouais ?
Voilà.
Avec des boutons et tout ?
C'est quoi comme émission ?
Zoom Zoom Zen.
Zoom Zoom Zen, ok.
Ma dernière rencontre, c'est ce beau mec. Ah, il faut le dire. Ah, vraiment, il est beau. J'ai même, à ce moment précis, la petite voix de la Marianoche qui me dit « Si jamais tu croises des BG, chope-moi des 06 ».
C'est vrai, c'est vrai.
Je le dis comme ça, avec cette voix.
Oui, comme ça. Qui me revient en tête. Lui, il a les cheveux bouclés, la veste en jean et un étui de guitare dans le dos. Oh.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Baptiste.
Baptiste, vous avez quel âge ?
37.
C'est quoi votre métier à vous ?
Je suis prof de guitare. Musicien en général.
Et musicien en général. Il découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
À haute voix, je lis ça. Bali, c'est une île. Les plages, le surf, tout ça, quoi.
Après, est-ce que c'est une vision qui est tronquée ?
Bah ouais, je pense. C'est une vision de touriste. Ouais. Et je pense que la vraie vie des Balinais, bah on la connaît pas.
Il pleut sur Paris, mais je lui demande s'il peut sortir sa guitare sur ce bout de trottoir.
Comme c'est de la radio,
ouais.
On ferme les yeux et tu nous emmènes sur une plage à Bali, quoi.
Ah bien, oula,
un peu comme tous les mecs qui sortent la guitare sur la plage.
Voilà, un bon cliché.
Bali, c'est une succession de clichés, d'eau turquoise, de sable fin. Alors, avec une guitare, on n'est pas à un cliché près. En plus, comme il sait que Manon Mariani l'écoute, il a choisi, l'attendu, et Samosa ta deferente. Qui veut dire...
On vous le dit si bien.
Qui veut dire, cette fille a changé.
Trésor de la culture balinaise. Puisque c'est une chanson brésilienne, évidemment. Sylvine Piquel-Chevalier, Bali, est-ce que c'est vraiment, historiquement, l'île des retraites zen, du Pilate, ou tout ça, c'est de l'importation de bobos de l'Est parisien ?
Ah bah, c'est complètement de l'importation, alors ouais. Pas que des bobos parisiens, et même cette image de Bali, sable fin, pas du tout, hein, le sable en général est gros. oui, et par contre, dans les plages du Nord sont tout à fait aussi intéressantes parce que c'est du sable noir, alors là, il est beaucoup plus fin, mais du sable noir, puisque c'est une île aussi volcanique. Ouais. Donc, effectivement, c'est très clairement, à Bali, ce n'est pas les plus belles plages du monde. Hein. Ce n'est pas ça, hein, le centre d'intérêt. C'est la richesse culturelle, en fait. C'est l'ouverture et aussi la difficulté. En fait, si on, par rapport à ce qu'on disait avant, par rapport à la cohabitation entre les touristes et les locaux. Alors, vous avez parlé... c'est Cyril qui a parlé du film avec Julia Roberts. Moi, il y avait un moment qui m'avait étonné dans le film et je trouvais ça très intéressant parce que c'est une vision de touriste, notamment américain, de dire « tout le monde a une aventure à Bali ». Et là, c'est incroyable parce que la société balinaise, elle est puritaine, elle est extrêmement conservatrice.
Donc tout est tronqué.
Il n'y a pas d'aventure.
Vous parlez d'une, vous dites invisibilisation des Balinais à Bali.
Ah, mais complètement.
Ça veut dire quoi ?
Et on les rencontre pas quand on y va, je comprends pas.
Il y a 4 millions de Balinais. Il y en a partout. Et je rappelle aussi qu'il y a plus de touristes domestiques que de touristes internationaux. Il y a 10 millions de touristes domestiques. On les voit, on les reconnaît très facilement puisqu'ils viennent essentiellement de Java et que les femmes sont voilées alors que les Balinaises ne le sont pas.
Mais il y a cette culture vraiment, comme on l'a entendu dans le micro-trottoir, du yoga, de la zénitude, du pilate.
Ah, c'est importé, mais ça vient comme les Balinais sont malins, En fait, ils sont aussi parfaitement capables de se l'approprier. Par exemple, après le film de Julia Roberts, que Télérama avait appelé le Tour du Monde en 80 clichés. C'est tout à fait vrai, je pense. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir la vision en fait, qu'on a, en fait, qu'ils ont donc, sur Bali, qui est exactement la même que les influenceurs aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'ils prétendent aller rencontrer la société alors que c'est complètement auto-centré. Hein. C'est vraiment elle qu'elle essaye d'aller mieux, elle. Et son grand amour qu'elle rencontre à Bali, bien évidemment, n'est pas baliné. Et donc, en fait, on a que les balinais sont présents uniquement pour montrer leur belle tenue près des temples, comme je vous disais, des petits bouts en fait, de rizières qui sont découpés dans le paysage. En France, on a aussi Toute la beauté du monde, hein, un film avec Marc Lavoine. Alors, c'est pareil, hein, c'est un Bali merveilleux. Il n'y a pas de balinais. Hein, ils se déplacent à Bali, tous les deux en scooter, il n'y a personne. Je ne sais pas comment ils ont fait pour filmer, parce qu'on est en Asie, il y a un monde énorme. Et d'ailleurs, ceux qui viennent pour la zénitude risquent d'être un petit peu déçus, parce qu'il y a un trafic monstrueux,
oui,
en fait.
Beaucoup d'embouteillages.
Saint-Air, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Dans cette émission consacrée à Bali, il est temps de présenter nos excuses aux habitants d'Alençon.
Il est temps, oui.
À force de vous dépeindre les atouts de cette cité normande où Quentin a grandi, et ce qui devait arriver arriva, des milliers de bus de touristes déferlent désormais sur Alençon, envahissant les rues, saturant les transports à tel point qu'il faut désormais réserver un mois à l'avance si vous voulez avoir une table au Bayocos. Amis alençonnais, je vous présente mes excuses pour tous ces désagréments, mais heureusement, pour endiguer le fléau du surtourisme, il existe des solutions, comme vous allez le découvrir dans le Zoom Zoom. Un quiz qui démarre, vous l'aurez compris, dans les Alpes autrichiennes. Je vous invite à Hallstatt, un village qui a décidé d'installer une grosse barrière en bois pour cacher la vue sur les Alpes. Pourquoi une telle idée ? Eh bien, pour limiter l'afflux de touristes venus du monde entier prendre leur petit selfie. Alors, qu'y a-t-il de si incroyable à Hallstatt ? C'est dans cette montagne qu'est situé le refuge d'Hitler, le fameux nid d'aigle où Manon se rend en pèlerinage une fois par an.
Oh, mais ça va pas !
Parce que le mont Hallstatt a été le fond d'écran par défaut de Windows pendant des décennies. Ou parce que Hallstatt est la réplique du village de la Reine des Neiges, ou l'inverse.
B.
C'est parce que Berghoff, c'est pas là.
Ah, ça, on sait que vous connaissez bien toute l'histoire du national-socialisme. Bravo,
c'est
Quentin.
On va avoir un peu de culture.
Oui, non, justement, je vous flatte. Mais ce n'était pas la bonne réponse. C'était la bonne réponse de Quentin, effectivement. Cyril, flûte. Ce village... Cyril s'améliore à la flûte.
Belle reprise.
Ce village, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est considéré comme un des plus beaux villages au monde, très prisé des amateurs de selfies, puisqu'il a effectivement inspiré celui du film de Disney La Reine des Neiges, d'où la construction de cette barrière pour calmer les ardeurs du million de visiteurs annuels. Mais il n'y a pas qu'en Autriche qu'on cherche à limiter l'afflux touristique. Face aux nuisances, une commune située près d'un des plus beaux sites naturels au monde a carrément dû ériger un filet en plastique pour boucher la vue qui donne sur le mont Fuji au Japon, la baie d'Along au Vietnam ou le Kilimandjaro en Tanzanie.
B.
C.
Vous êtes très B aujourd'hui,
oui,
Manon.
Oui, je l'atteste.
Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse. Oh, bravo, Manon. Oh, bravo.
Il est pas validé.
Quel rebond. Il est validé.
Bah, comment il peut l'être ?
C'est la rapidité. Elle a dégainé plus vite que vous.
Sur une deuxième mauvaise réponse.
Dommage, je m'entends.
Non, c'est une bonne réponse, c'est là.
Oui, très bien.
En 2024, Fujikawa Gushiko, une commune située près de la célèbre montagne, en a marre de voir autant de mégots et de déchets que dans l'appart de Manon un dimanche au petit matin, sans compter les problèmes de circulation, et décide donc d'installer un filet de 20 mètres par 2 pour tout bonnement boucher la vue et décourager les Instagrammeurs. Et comme je les comprends, dit Pierre Courade en régie, lui qui a été obligé de planter une haie de bambou sur son balcon pour pouvoir continuer à pratiquer le nudisme dans le 11e sans se faire verbaliser. Mais restons en Asie, on y est si bien.
Et plus particulièrement... Il est pas dans le 11e,
en revanche, il est dans le 20e. C'est vrai, il fait croire qu'il est dans le 11e. On reste en Thaïlande, direction la plage de Mae Bay, qui, d'après Cyril, figure en photo de la devanture du salon de massage Ten Ten. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'elle a été fermée en 2018 pour endiguer le surtourisme de masse, dû au fait que cette plage est celle du film James Bond contre Dr. No avec Ursula Andress et son bikini blanc en 62, du film La Plage avec Leonardo DiCaprio en 2000, ou du film Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit en 2006.
C'est où déjà
En Thaïlande.
C'est la plage.
C'est la réponse B, bonne réponse de Manon, la plage de Kopipi.
Manon, pas Manon, c'est
Quentin. C'est vous Quentin, c'est vrai, avec la moustache et la barbe.
Le bouc,
c'est vous.
À la manuelle.
La plage de Kopipi, immortalisée par Danny Boyle en 2000 avec DiCaprio et notre Guillaume Canet national, un lieu magique qui sera ravagé par le surtourisme. 60% du corail avait été détruit, d'où la décision radicale des autorités thaïlandaises. Une fermeture totale, un confinement.
Ah ouais.
Et depuis sa réouverture en 2022, il y a désormais un quota de visiteurs à ne pas dépasser, comme dans les soirées gangbang du 15e. Mais
c'est
attention
aussi dans le sud. sud de la France, à Porquerolles, maintenant, ils font pas ça, des quotas ?
Ah bon ?
Écoutez, quand je m'approche en bateau près de Porquerolles, personne ne m'a jamais dit qu'il y avait des quotas.
Vous avez une place à l'année, vous. Oui. Golden ticket.
Pas du tout.
Je suis pas allé depuis des années, mais je crois pas.
Vous savez qu'au large de Porquerolles, on peut pas planter, on peut pas mouiller, on peut même pas mettre l'ancre. Il faut rester comme ça en équilibre parce que sinon, on peut pas abîmer le corail. Ouais. Moi, je respecte ça. C'est, c'est ça, être
on
écolo.
Que vous êtes abonné à Semi-Rigide Magazine.
Je vous en prie, je vous en prie. Ne dites pas n'importe quoi, ce magazine n'existe même pas. Mais attention.
Mais non.
Il a existé en tout cas. La grande roue du gai savoir tourne toujours. Direction les Pays-Bas, le pays du Gouda, des moulins, de Van Gogh et des duos improbables.
Vanina, si tu m'oublies.
Sans oublier Manon.
Il me crime celui-là.
Sans oublier Manon, qui n'y a jamais touché, pourra confirmer la drogue. Un cocktail détonnant et attractif qui a conduit les habitants d'Amsterdam à défiler dans les rues et à arroser les touristes avec des pistolets à eau, à déposer des étrons devant les Airbnb du quartier rouge, ou à financer une campagne de pub anti-fêtard anglais.
B. Les étrons.
Il y en a peut-être plusieurs.
Toi, tu cherches. Vous étiez sûr de vous, là, Manon.
Mais
A. Non, 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 Quentin, en plus, je vous fais des signes. C'était la C, mais je ne peux pas vous donner le point, Quentin. Je vous fais des signes.
Alors, vous
je
l'avez
fais des
aidé signes.
Non, mais j'ai essayé un petit peu.
Allez, bye.
Comme dirait Cyril, l'anglais passe encore, mais le touriste anglais, c'est non. À un moment, le Hollandais a dit stop. Lassé de voir défiler dans les rues d'Amsterdam ses cohortes de roast beef ventripotents, alcoolisés et peu soucieux du patrimoine culturel de la ville, la municipalité a lancé en mars 2023 une campagne intitulée « Ne venez pas », ciblant en priorité les jeunes britanniques. Je vous propose d'écouter l'argument du maire d'Amsterdam.
C'est pas aux saloperies d'anglais à nous dire ce qu'on a à faire, bordel de merde. Je comprends pas.
Le coup des pistolets à eau, c'était l'année dernière en Espagne. À Barcelone, les habitants se mobilisaient contre le surtourisme en arrosant les touristes avec des pistolets à eau. Manon, touchée à l'épaule, avait failli succomber à ses blessures, puisqu'on rappelle qu'elle est allergique à l'eau.
Ça brûle !
Défaite du tourisme et victoire de Quentin, mais oui, mon Quentin, oui, comme quoi.
Mais arrêtez, c'est moi qui ai gagné.
Impossible.
Avec un petit coup de pouce.
Ah bah, vous avez mal compté. C'est comme les verres.
De quoi comme
de Porto.
De quoi comme les verres de Porto.
Oui.
Le paradis des influenceurs devient-il l'enfer de tous les autres? Sylvine Piquel-Chevalier, professeure de géographie à l'Université d'Angers, est avec nous pour comprendre l'attractivité de Bali, prisée donc par les influenceurs et les touristes plus généralement. On a dit 16 millions de touristes. Il y a aussi les Balinais et il y a aussi un tourisme intérieur, vous l'avez dit, indonésien, qui est très, très important. Il y a un surtourisme à Bali, ça fait pas de doute.
Alors, en fait, ça mérite d'être nuancé. Ouais. Alors, donc, effectivement, 2025, les derniers chiffres, c'est 7 millions de touristes internationaux et 9,5 millions de touristes domestiques, puisqu'ils sont un peu en récession économique. Il y a un phénomène de surfréquentation. Nous, on parle plus de surfréquentation parce que c'est dans un espace donné et un temps donné, hein, parce qu'il y a aussi une saisonnalité à Bali, qui est après la saison des pluies, donc à partir de mars, à peu près, dans le sud de Bali. C'est-à-dire que qui est aussi le reflet de leur histoire au départ. C'est-à-dire qu'au départ, l'idée, c'était justement, il ne faut pas qu'il y ait une contamination. Mais le problème, c'est que ça a complètement déséquilibré le développement de Bali. Aujourd'hui, 80% de la pollution... La population balinaise, elle vit dans les trois régions de Sille, donc les trois provinces du Sud, où il y a 80% de l'économie touristique. Et donc, en fait, il y a aujourd'hui, vraiment un déséquilibre. Et le fait qu'il y ait clairement trop de touristes, surtout pendant la saison, dans le sud, mais pas assez dans l'ouest. Je vous parlais notamment des villages Bimbingsari et Palasari, qui sont un est catholique, l'autre est protestant, où eux, ils ont besoin d'avoir plus de touristes. Et ils ont envie de faire connaître leur spécificité. Et même grâce au tourisme, ils se sentent, comme ils me l'ont dit, le vrai Bali. Nous aussi, nous sommes le vrai Bali, même si nous sommes protestants ou catholiques, puisqu'en fait, ils avaient été envoyés là en 1930 pour éviter les problèmes avec les hindous. Ou dans le nord, l'ancienne capitale était à Singaraja, aujourd'hui il manque un touriste, et même dans l'est, alors il y a un peu plus de touristes dans l'est, mais globalement ce phénomène, plus que de surtourisme et vraiment de surfréquentation, avec souvent un tourisme hors sol, pas que, parce qu'il y a des grands sites aussi, des villages et des grands sites comme le Tanalot, comme le Luwatu, qui sont associés vraiment aux Balinais et qui fonctionnent bien, mais il y a effectivement des plages qui sont des plages, des endroits comme Seminyak, comme Kangoum, qui sont hors sol aujourd'hui, et où il y a, comme vous disiez, qui correspond en fait, et en même temps c'est très intéressant vos micro-trottoirs, parce que ça correspond quand même au cliché qu'on entend sur Bali, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la complexité, la richesse de la société balinaise.
Vous en parliez tout à l'heure, vous l'avez évoqué, vous dites que le tourisme a permis à la société balinaise de s'ouvrir sur une certaine modernité, notamment les femmes qui font plus d'études. Comment vous l'expliquez?
Alors, Sans aller même déjà jusqu'aux études, on en parlera après, déjà dans les villages, dans la société traditionnelle, parce qu'il ne faut pas non plus idéaliser la société traditionnelle. Hein. La société traditionnelle, elle est très patriarcale hein, à Bali. Et donc, en fait, les femmes... Alors, on a un accès plus fort aux études partout, grâce à un État qui vraiment tient à ce que sa population se développe. Donc déjà, l'école est obligatoire jusqu'à 14 ans, mais après, les études supérieures sont accessibles à beaucoup de gens grâce à des bourses. Donc, on a une possibilité pour les femmes de faire des études supérieures. On en a beaucoup, hein. Notamment dans le tourisme, mais je vous parlais tout à l'heure de la loi coutumière, elle est restée extrêmement patriarcale et traditionnelle, c'est-à-dire que dans leur village, dans les banjars, les femmes n'ont pas de représentation politique, ce ne sont que les hommes mariés, donc ça veut dire que vous pouvez être Bac plus 5, mais vous rentrez dans votre village, vous n'êtes rien. Ouais. Alors, même sans parler en fait de ces femmes-là, en fait, pourquoi le tourisme est tellement important ? C'est parce que traditionnellement, en fait, la maison est associée au travail de la femme. Or, en fait, dans les villages, comment ça va se développer le tourisme ? Bah, on va ouvrir des homestays, on va ouvrir des restaurants, on va ouvrir même des petites boutiques. Et tout ça est associé à la maison. Donc, c'est les femmes qui vont pouvoir à la fois... assumer tout leur travail de femme dans la société traditionnelle, c'est-à-dire s'occuper du foyer, s'occuper des enfants, s'occuper de tous les rituels religieux, parce qu'il faut bien voir qu'à Bali, il y a 4 cérémonies par jour, donc ça prend un temps fou, plus des grandes cérémonies tous les mois. Et en même temps, accueillir des touristes qui les valorisent, parce qu'ils trouvent que la nourriture qu'elles font, c'est hyper bon, que tout ce qu'ils font, c'est super, et avoir un vrai emploi avec de l'argent qui vont faire qu'elles vont être plus reconnues, plus écoutées, comme disait de Beauvoir déjà en 49. Autonomie.
Un voyage à Bali sans émettre un seul gramme de CO2. Merci qui ? Merci France Inter. Et c'est l'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Un influenceur aujourd'hui, il s'appelle Julian Petroulas, un entrepreneur australien devenu influenceur, connu pour ses vidéos, où il explique comment se faire de l'argent à Bali, entre villas de luxe, restaurants, investissements immobiliers. Il met en scène une super réussite, une réussite rapide, accessible. Comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, il utilise évidemment ses réseaux sociaux pour vendre une méthode de réussite. Et pendant des mois, il construit cette image sur TikTok, sur YouTube, il monte ses projets, ses deals... jusqu'au moment où une vidéo va tout faire basculer. En 2024, il affirme avoir acquis un terrain de plus d'un hectare à Bali. Sauf qu'en Indonésie, un étranger ne peut pas posséder directement de terre. L'affaire prend de l'ampleur, les autorités s'en mêlent et son visa est finalement annulé. Il est interdit de séjour. Lui, évidemment, il conteste. Il explique qu'il s'agissait en réalité d'un bail longue durée, donc une pratique pour le coup légale. Il parle aussi d'une arnaque à plusieurs millions de dollars dans cette opération, une version qu'il défend publiquement mais qui reste encore difficile à vérifier dans le détail. Mais son cas dépasse largement son histoire personnelle, car depuis quelques années, Bali a changé de politique face à l'arrivée massive d'influenceurs, de freelance, de digital nomades, comme on les appelle. L'Indonésie a décidé de reprendre le contrôle, d'abord sur les impôts. Passés 183 jours sur le territoire, un étranger devient résident fiscal et doit déclarer l'ensemble de ses revenus, même ceux gagnés à l'étranger. Ensuite, sur le travail, pendant longtemps, beaucoup travaillaient depuis Bali sans statut vraiment clair. Aujourd'hui, les contrôles se multiplient, les autorités surveillent de plus près les activités en ligne. Et puis, il y a aussi la pression locale, évidemment, on l'a évoqué, à cause de cette affluence, les prix explosent, il y a du surtourisme dans les lieux les plus instagrammables, des pics de pollution à cause des scooters, et ça crée des tensions avec les habitants. Le gouvernement veut que les étrangers respectent les règles et contribuent à l'économie. Car dans ce nouveau cas, les influenceurs ne sont plus seulement des visiteurs, ils deviennent des acteurs économiques de l'île, et à cause d'eux, elle commence à se transformer en un Dubaï Ibis, je sais que vous n'aimez pas la comparaison, mais où tout est fait pour les réseaux, où la végétation laisse place à une urbanisation massive et où surtout le bling-bling remplace le naturel.
Tout ça à cause de ces foutus digital nomades.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Si, après tout ce qu'on s'est dit, vous hésitiez encore à visiter Bali, sachez que l'île figure dans le chapitre « Destination à éviter » du célèbre guide de voyage de Pierre Courade, Adios les Bibaros, qui évoque, je cite, « une île encore plus calamiteuse que le Cap-Vert, mais pour d'autres raisons ». C'est clairement le surtourisme occidental et la mise à l'écart de la population locale qui ont choqué Pierre, pas autant que ce que Quentin a écrit sur Loana dans le groupe WhatsApp, mais choqué quand même. Pierre, malgré ce souvenir mitigé, vous allez nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur Bali, en vous basant plutôt sur ce que nous a dit notre invité que sur Adios les Bibaros, s'il vous plaît.
Oui, mais ce que nous a dit notre invité, invité recoupe parfaitement le chapitre balinais d'Ados, les Bibaros. Ça tombe bien. Bali, cette île indonésienne un peu à part dans l'archipel, elle est hindoue alors que l'Indonésie est le premier pays musulman du monde. Notre invité, la géographe Sylvine Picale-Chevalier, nous a expliqué que cette spécificité a servi le pouvoir central indonésien. Son histoire coloniale, ses paysages et sa culture ont depuis longtemps attiré les visiteurs du monde entier. Si bien qu'aujourd'hui, on ne dit pas « je vais en Indonésie », mais « je vais à Bali ». L'île est devenue une marque. Le revers de la médaille, c'est qu'elle a dû s'adapter aux attentes des Occidentaux. L'argent des touristes dénature les coutumes balinaises. Notre invité nous a par exemple expliqué que les villas soi-disant authentiques construites pour accueillir les étrangers ne correspondent en rien au rite balinais. Bali est devenu un décor artificiel pour un tourisme hors sol à la recherche de nature et de belles plages et sûrement pas de rencontres et de partage. Si on part de ce triste principe, on comprend mieux que pour des influenceurs, Dubaï ou Bali, c'est du pareil au même. Ce qui laisse perplexe notre invité, évidemment, et moi avec. Les Balinais se sentent alors dépossédés de leur île et de leur culture. Ils sont même invisibilisés. Le yoga vient d'Inde, le pilate d'Allemagne. Les influenceurs qui se rendent à Bali ne valorisent donc en rien la culture locale. Et si les influenceurs tuent Bali, ce serait vraiment ballot.
Ah, elle est belle.
Bravo Pierre. Ah si, c'était très joli. Ça
pour une fois, franchement, on peut y accorder.
Bravo Pierre.
Pour
une fois. Enfin, chaque vendredi, vous le savez, on ne peut y déroger. On doit subir la litanie de reproches, qui plus est concoctée avec une certaine gourmandise sadique, par François Rollin. Bonjour François.
Bonjour mon cher Mathieu. Alors, je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir emmené vendredi dernier à Lille, au festival Sérimania. Non pas à cause des séries dont je vous l'ai dit, je me fiche complètement, mais parce que j'ai enfin compris ce jour-là ce qui ne va pas dans votre émission. En effet, tout semble militer en votre faveur, les collaborateurs sont très bons, les sujets sont plutôt bien choisis, les invités généralement brillants. Seulement, ce qui ne va pas, et que je ne parvenais pas à voir depuis 6 mois, ce qui ne va pas, c'est que vous, Mathieu, vous avez un mauvais fond. Et les auditeurs le sentent. Je ne pouvais pas le deviner, puisqu'ici, dans les locaux et les bureaux et les studios de France Inter, vous vous comportez comme un honnête homme. Et on vous donnerait le bon Dieu presque sans confession. Mais là-bas, à Lille, j'ai pu vous observer en dehors de ce cadre sanctuarisé. J'ai pris le train avec vous et toute l'équipe. Je suis allé déjeuner dans un restaurant excellent demeurant avec vous et toute l'équipe. Puis j'ai traversé le centre-ville avec vous et toute l'équipe pour rejoindre le Théâtre du Nord qui abritait nos studios. Voici ce que j'ai vu et permettez-moi de prendre à témoin les auditeurs encore naïfs. Dans le TGV, lorsque le contrôleur Mathieu vous a demandé votre billet, vous lui avez hurlé en pleine face « Bas les pattes, misérable vermisseau, tu ne sais donc point qui je suis ? Tes maîtres ne t'ont-ils point prévenu que je suis le prince de la France Inter ?» Sans les brillantes contorsions diplomatiques de Cyril Lacarrière, on nous aurait expulsés du TGV en pleine Picardie pétravière. Au restaurant, lorsque la serveuse est venue vous demander si vous vouliez boire quelque chose, vous lui avez asséné « Occupe-toi donc de tes fesses, Cendrillon, et fais savoir à ton patron que le roi des ondes lui fait l'honneur de festoyer dans sa pisseuse gargote. » Sans Cyril, nous eussions été réduits à manger un sandwich triangle périmé de chez Carrefour City. Sur le chemin du théâtre, vous avez été abordé par un vieil homme très sympathique, dont j'ai appris ensuite qu'il était ghanéen, malade et sans abri. Un vieil homme qui vous a témoigné son admiration et vous a demandé très poliment un selfie. Votre réponse a été « Ôte-toi de mon chemin maintenant et va au diable, car la France Inter attend ma voix céleste ». Cyril n'a rien pu faire, le gars s'était déjà tiré une balle. Mais c'est là que j'ai noté que, en plus d'avoir un mauvais fond, bizarrement, incompréhensiblement, sorti des studios, vous parliez en vieux français, comme Christian Clavier dans Les Visiteurs, le talent en moins. Enfin, lors de l'émission en public, à la pause de 17h, une femme enceinte vous a demandé timidement...
Oh non.
Ah, sans des souvenirs douloureux, Mathieu. Hein.
Oui, c'est trop dur. Vous êtes trop dur. Je me bouche les oreilles.
L'autorisation de se rendre aux toilettes et je vous ai entendu crier, nous vous avons tous entendu crier, garde, emparez-vous de cette gourgandine et jetez-la dans un cul de basse fosse. Et en prononçant le mot cul, qui est pourtant utilisé dans un sens figuré, vos yeux exorbitaient, jetaient des éclairs de jouissance malsaine. Voilà le tableau, et vous voudrez que les auditeurs ne se doutent de rien. Vous pensez les avoir embobinés Que nenni, pour parler comme vous. Vous avez beau faire le gendre idéal et le professionnel au-dessus de tout soupçon, dans le ton de la voix, dans certaines nuances de la diction, dans le grincement des silences, dans la bestialité de votre souffle rauque, les auditeurs soupçonnent que vous avez un mauvais fond. Et à partir de maintenant, ils ne font plus que le soupçonner, ils le savent, et gageons, puisque vous aimez gager, que dans une dizaine de jours, ils ne seront plus qu'une poignée. Dont moi, mais moi c'est pas pareil, moi je suis payé pour vous aider.
Oui, vous nous aidez, et vous êtes tellement bien payé pour nous aider que la dernière fois, vous nous avez planté à Lille, vous avez changé le billet de toute l'équipe. On a c'est failli rester ça. Sur le quai de la gare, j'ai failli pas pouvoir voir ma femme et embrasser mes enfants avant de me coucher. C'était terrible.
C'est absolument révoltant. Je vous dédommagerai autant que je peux de ma poche, mais ce qui est scandaleux, c'est que l'application m'ait permis, alors que je n'étais même pas le premier tireur du billet, m'ait permis de changer vos billets à vous.
C'est la faute de la SNCF, c'est ça que vous nous dites, François Rollin ?
La SNCF, non. L'application, c'est qui c'est qui me l'a
dit ?
C'est
Gislain. Gislain m'a dit, vas-y, prends l'application
notre réalisateur.
Inouï Pro, elle est vachement bien.
Mais ils sont mal organisés. Après, François. T'aurais pu regarder que t'embarquais pas tout le monde dans ton changement d'horaire. Hein bon.
Faut jamais écouter Gislain.
Faire tourner à RTL.
On pinaille pas dans les billets de train là-bas. Merci François Rollin. Merci aussi Sylvine Piquel-Chevalier de nous avoir éclairé sur la destination préférée des influenceurs, Bali. Zoom Zoom Zen.